Bonjour et bienvenue sur les antennes de IDFM Radio, il est l'heure du Ground Hopper Show, l'émission qui parle de tous les footballs. Aujourd'hui je ne suis pas seul puisque nous serons trois sur le plateau. Pour m'accompagner, Baptiste est présent ce soir, comment tu vas ?
Bonsoir, bonsoir tout le monde, ça va très bien d'étonner.
Ça va, merci. Il y a aussi Romuald qui nous rejoindra dans quelques instants. Notre invité du jour, ce sera Mélo, qui nous racontera son expérience et son parcours dans le football. Lui qui s'est rendu compte qu'il n'aurait pas le mental pour jouer en pro après des essais en Europe. Bienvenue dans le Ground Hopper Show. Le Ground Hopper Show, seulement sur IDFM Radio. Et sans plus attendre, on entre dans le vif du sujet avec notre première rubrique. Chaque week-end, des milliers de passionnés font vivre notre sport sur les terrains de district, de régional ou encore de départemental. C'est l'heure de notre point sur le football local.
C'est dimanche prochain, je vais jouer.
L'actu foot local dans le Ground Hopper Show. On commence directement avec Baptiste. Baptiste, il me semble que tu as fait des recherches sur un certain club. Est-ce que tu peux un peu plus nous en parler ?
En effet, j'ai fait 2-3 recherches sur un petit club du 95. C'est nul autre que celui de Jouy-le-Moutier. En effet, il se développe d'année en année. Il devient de plus en plus intéressant. Du coup, j'ai trouvé ça peut-être pertinent de pouvoir en parler ce soir. Donc, en effet, le club, il a récemment obtenu le label Excellence sur l'école de foot, qui est un contraste quand même marquant, étant donné que c'est un club qui ne possédait encore qu'un seul terrain synthétique il y a encore quelques années. Aujourd'hui, le club dispose d'infrastructures très intéressantes, avec notamment 3 terrains synthétiques à disposition pour le club et des équipes de jeunes qui se développent au fur et à mesure d'année en année. Tout cela, j'ai pu le lire donc sur les avis internet, etc., ou même avec différents joueurs que j'ai pu côtoyer. Donc dans un climat très familial, axé notamment sur la formation des joueurs qui passent par le club avant tout. C'est vraiment pas l'aspect de compétition qui est inculqué aux jeunes et aux joueurs qui sont dans le club, mais bien plus un apprentissage par plaisir. Avec une équipe donc première en D1 ainsi qu'une seconde en D2, au niveau donc des seniors évidemment, le club vise clairement une double montée cette année pour les catégories seniors, ce qui serait un exploit remarquable hein, parce qu'une double montée c'est quand même un exploit pour un club de cette taille. Et de plus, on a quand même un parcours notamment avec les U18 qui est à souligner l'année précédente, qui sont quand même allés en demi-finale de Coupe du Val d'Oise pour se faire sortir par le club de Cergy, qui est quand même un club très reconnu dans notre département. Donc je pense que c'était un club qu'il faut suivre cette saison et surtout qui était intéressant de souligner la performance qui ne cesse d'augmenter d'année en année.
Est-ce que je peux te demander pourquoi tu as choisi ce club-là ?
Notamment parce que j'ai eu la chance de côtoyer des joueurs qui ont joué là-bas, notamment un joueur que je peux citer qui est Nathan Dominique, qui sort d'ailleurs des croisés récemment et qui a pu revenir avec l'équipe première pour en tant que défenseur central. Et je connais bien son parcours, je connais bien le joueur, il m'en a déjà beaucoup parlé en bien. Donc j'ai décidé de m'y intéresser plus profondément afin de pouvoir en parler ce soir.
Mais écoute, c'est très gentil de ta part de le mettre en avant aujourd'hui. Moi, écoutez, chers auditeurs, auditrices d'IDFM Radio, j'aimerais mettre en lumière le club de la ville, puisque nous sommes à Enghien-les-Bains, IDFM Radio est la radio de proximité. Donc j'aimerais mettre en lumière le club de Deuil-Enghien, la JED, où j'y ai passé une petite année, même si je n'ai pas été très présent. Leur équipe 1 de seniors est montée cette année, en D3. Ils ont une deuxième équipe qui est en D4. Est-ce qu'il est possible de faire une montée en D2, donc 2 montées d'affilée? C'est possible, vu le groupe. Je vous laisse vous intéresser au club, avec Demba qui, en coach, mène son équipe parfaitement depuis l'année dernière. Et franchement, pour une création d'il y a un an, on peut être fier de notre club local qui, franchement, fait bonne figure dans le milieu du football de district. Et ça fait plaisir de voir des équipes bien travailler comme ça. Et c'est à souligner.
Surtout si je peux rebondir, Naé, quand même, on parle d'une création de club très récente et c'est quand même rare de voir une équipe qui arrive du coup d'être créée en D4, montée directement dès la première année. On voit qu'il y a une bonne structure quand même.
C'est vrai, c'est clair. Le tour d'horizon du football local est maintenant terminé. On va maintenant donner la parole à quelqu'un qui connaît parfaitement les réalités du terrain. Il va nous partager son expérience de joueur, son parcours, ses souvenirs. C'est le moment de notre entretien. Mélo, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de ta courte carrière ?
Alors carrière, c'est un grand mot, mais déjà moi, ce qui est assez fou, faut savoir que je suis né à Enghien-les-Bains, donc c'est déjà un beau clin d'œil. Ensuite, j'ai fait pratiquement toute ma jeune carrière, on va dire de débutant à l'époque, on disait jusqu'à senior à l'Entente Saint-Noix-Saint-Gratien, donc juste à côté. Et ensuite, j'ai voulu m'aventurer un petit peu, vu que c'était, on va dire, c'est l'Île-de-France, il y a quand même un sacré niveau, faut l'admettre. Donc j'ai fait quelques essais en Belgique, au Luxembourg. Et malheureusement, c'est là où j'ai pu voir mes limites mentales. Ou justement, là où j'ai touché à la division 1 luxembourgeoise, j'ai vu que là où il fallait faire certains sacrifices, où il fallait une certaine mentalité, faire abstraction, on va dire, de certaines choses pour pouvoir réussir, j'ai vu que j'avais pas forcément la mentalité nécessaire, on va dire, pour pouvoir aller le plus haut. Et c'est là que j'ai pris conscience que oui, effectivement, c'était... Il y avait une base de talent, de travail, mais aussi de mental, c'est un tout. Sur le nombre de jeunes dans le monde, et particulièrement en France, qui veulent réussir dans le football, il y a énormément de paramètres, et là, je me suis rendu compte que je les remplissais pas tous, et je suis rentré à la maison gentiment.
Est-ce que t'en es ressorti grandi, justement, de cette expérience? Quand t'es revenu, est-ce que t'as senti un changement avec le toi d'avant et le toi de quand t'es revenu?
Honnêtement, je dirais surtout que ça m'a empêché toute frustration. Je pense que j'ai énormément d'amis qui ont grandi dans le football comme moi, qui avaient énormément de talent, qui pensaient, et du coup aujourd'hui des regrets, des frustrations, en se disant je pense, en voyant ceux que je vois jouer à la télé, je pense que j'aurais pu percer. Moi, je n'ai pas cette frustration, parce que j'ai vu que oui, footballistiquement, je les enviais pas, mais j'ai vu mes limites. J'ai vu mes limites, et du coup j'ai aucun regret, aucune frustration à ce niveau-là, donc on peut dire que oui, j'en suis sorti grandi, ouais.
Merci beaucoup Mélo pour ce témoignage et ce partage d'expérience. On marque une première pause musicale sur IDFM Radio. Ne bougez surtout pas, puisque juste après, nous reviendrons sur l'actualité du football professionnel français. On écoute Tout en Gucci de Ninho.
Il n'y aura plus jamais d'anonymat, même si je dépose le tablier. Comme la boule noire au billard, on sera sur le rinté, on te remplacera si tu te fais péter. J'ai une famille trop grande à nourrir, Mani, je peux pas mourir pour le nom de ma rue. TGV, ce qu'il a flic, il sort à la prochaine à porte, maillot. J'ai planté le pommier, ils m'ont même pas laissé une pomme. Mais comme je suis un taulier, je m'endormirai au Hilton. Tenu ce putain de sac, je me barrais dans la soirée. Je revenais à midi si la veille, tout s'était bien passé. Tenu ce putain de sac, je me barrais dans la soirée. Je revenais à midi si la veille, tout s'était bien passé. Bédo, j'ai très, je suis dans le réseau. Couteau sans dents, appartement là-haut. Bédo, j'ai très, je suis dans le réseau. Couteau sans dents, appartement là-haut. Numéro 10, je distribue comme Léo. Mais si je suis dans le ghetto. Je m'habillerai tout en Gucci. Devant le miroir, je me trouve BG. Un peu gêné quand la famille demande le prix. En face, ils sont jaloux. Jaloux de qui? Jaloux de nous? Qui je dois? On commence par qui? Devant le miroir, je me trouve BG. Un peu gêné quand la famille demande le prix. Enfin, s'ils sont jaloux de qui? Jaloux de nous qui jouent? On commence par qui? Faudra être têtu et borné pour réussir à monter. J'ai besoin de personne pour compter. 20 billets de 50 font 1000, c'est carré. Qu'est-ce qu'ils connaissent? Ils sont bons qu'à dire bang bang dans les sons. Mais quand ça bang bang vraiment, y'a peu de soldats au front. Mais qu'est-ce qu'ils connaissent? Ils sont beaux qu'à dire bang bang dans les sons. Mais quand ça bang bang vraiment, y'a peu de soldats au front. Tout en costla, mi corazón est toujours aussi black. Je me suis acheté un toka, j'suis pas everyday avec les bodyguards. Connu comme les Rolling Stones, connu comme Lady Gaga. Ce putain de monde est stone. J'ai baissé les tarots, j'm'appirais tout en Gucci. Miroir, je me trouve BG, un peu gêné quand la famille demande le prix.
Un peu gêné quand la famille demande
en
le prix.
En face, ils sont jaloux. Jaloux de qui? Jaloux de nous? Qui je dois? On commence par qui? Devant le miroir, je me trouve BG, un peu gêné quand la famille demande le prix. En face, ils sont jaloux. Jaloux de qui? Jaloux de nous? Qui je dois? On commence par qui? Tu es borné pour réussir à monter. J'ai besoin de personne pour compter. 20 billets de 50 font 1000, c'est carré.
En face, ils sont jaloux de nous, de qui jaloux de nous, qui je dois, on commence pas.
Le Grain d'Opper Show, seulement sur IDFM Radio. De retour sur le 98 de la bande FM en DAB+ sur IDFM98.fr, en podcast sur Spotify ou encore en rediffusion sur YouTube. Vous êtes toujours dans le Grain d'Opper Show, l'émission qui parle de tous les footballs. Et après avoir parlé de football local, place au football qui fait vibrer des supporters partout en France, on passe à notre rubrique football professionnel français.
Hey, Melvin, là tu prends dans les gars, tu veux faire ma boule.
C'est l'actu du foot professionnel français dans le Grain d'Opper Show.
Donc déjà, Romuald nous a rejoint. Romuald, comment ça va?
Ben ça va, bonsoir à tous.
Bonsoir Romuald.
Messieurs, j'ai envie de commencer sur un petit point sur notre Ligue 1. J'ai envie de vous questionner un peu sur les équipes qui, pour vous, jouent la Ligue des Champions cette année. Est-ce que vous avez des favoris, Baptiste?
Ouais, bah moi, y a des équipes qui m'ont séduit, j'ai envie de dire, dans ce début de saison. Je pense notamment à Lille, qui est parti s'imposer notamment à Angers. J'ai eu la chance en plus de pouvoir regarder le match avec toi, Naé, d'ailleurs.
C'est vrai.
Et c'était très intéressant à voir, que ce soit l'ambiance, mais même tout simplement comment le club tactiquement jouait le coup. C'était vraiment plus qu'intéressant. En plus, ils ressortent de là avec un clean sheet de mémoire.
2-0,
c'est ça. On a eu aussi là le match très récent avec Toulouse, où ils partent s'imposer aussi là-bas 1-0. On a une équipe qui est bien rodée. En plus, on a pu voir que le groupe vivait bien, malgré le départ de Boadji, voilà, à Manchester City. On a un vivier offensif qui est très intéressant, mené par Olivier Giroud, qui reste comme le bon vin, j'ai envie de dire, qui continue de performer malgré les années.
Et en plus, qui a l'air d'être quand même un mec sympa.
Ouais, c'est vrai. Très très sympa.
Ça a l'air d'être un mec de vestiaire. Hein.
Et un mec clean sur un terrain.
Ouais, c'est vrai.
Du coup, non, franchement, Lille me plaît et pour moi sera en Ligue des Champions la saison prochaine.
Très bien. Romuald, est-ce que toi, t'as un prétendant?
Ben, je sais pas. J'ai regardé le match contre Monaco là de Paris. C'était quand? C'était vendredi.
Mm-hmm.
C'était vendredi. Donc, Monaco, ils me font un peu peur. Moi, je pense que Monaco, ils ont pas commencé leur saison d'habitude aussi rapidement et sur un rythme aussi fort.
Ouais, clairement.
D'habitude, ils prennent 10-15 points de retard et après
ils remontent la pente.
Ouais. Là, bon, est-ce que départ canon et que ça va faire pchit? Mais en l'occurrence, c'est vrai qu'ils ont pas de Champions League à jouer. Donc,
ils ont que la conférence, c'est vrai. Ouais.
Conférence en plus. Donc peut-être qu'on peut imaginer que ça soit une équipe qui soit redoutable, et ils l'ont déjà fait il y a quelque temps. Le titre à Paris, il y en a peu qui l'ont fait. Hein. Bah il y a Lille et il y a.
C'est ça. Bah il y a que deux clubs qui l'ont fait, et c'est eux. Et pour être très honnête, moi je pense que plus Monaco que Lille même. Je vais appuyer les propos de Romuald. Clairement, s'il y a une équipe qui me fait peur pour le titre, pour le Paris Saint-Germain, je pense que Monaco a vraiment une carte à jouer parce qu'ils n'ont pas de Ligue des Champions. Dans les pattes, quoi. Autant Lille, je les vois laisser des plumes en LDC quand ça va s'intensifier, parce que voilà, il y a la Coupe de France, il y a la Ligue des Champions, il y a la Ligue 1. On sait que gérer les trois compétitions en même temps, ça peut être parfois compliqué. Alors que Monaco, voilà, il y a moins cette grosse question. Puis où est-ce quels sont leurs objectifs en C4? On sait pas trop. Peut-être qu'ils vont vouloir justement privilégier la Ligue 1 pour la remporter. Je pense que Monaco, ça peut être intéressant.
Et Monaco, je crois qu'ils ont aussi l'habitude un petit peu de ces changements chaque année d'entraîneur. Ils n'ont pas de régularité, ça va pas trop les perturber. Alors que bon, Lille, ils viennent perdre Genesio. C'est quelque chose qui est peut-être un peu moins stable pour eux et donc un peu plus aussi difficile sur la durée, la mise en œuvre, la mise en place. Donc ouais, je sais pas. Monaco. Et puis Monaco, ils n'ont pas de pression.
C'est-à-dire que les supporters,
il y a pas le public, il y a pas.
C'est Louis II, quoi.
Voilà,
c'est Louis II.
Les mecs,
c'est calme.
Ils sortent dans la rue, ils sont tranquilles. voilà. Contrairement à Lille, où il y a quand même une ferveur plus importante et un public qui est peut-être un peu plus exigeant aussi. Donc, lorsque les résultats peuvent être un petit peu plus difficiles, voilà, les mecs de Monaco, je pense qu'ils peuvent tranquillement aller faire leur course aux champions de Monaco. Il y aura pas de souci.
Clairement.
C'est vrai. Messieurs, j'ai envie de vous questionner sur les coachs, parce que on a deux arrivées importantes. D'un côté, on a Luis Felipe, et de l'autre côté, on a Davide Ancelotti. Deux coachs qui viennent notamment du Brésil, qui ont eu des expériences au Brésil. Et c'est vrai que Luis Felipe, pour l'instant, il est en train de tout rafler. Mais j'ai envie de dire Davide Ancelotti aussi. Est-ce que il y a pas aussi un match à ce niveau-là? Un match dans le match, exactement. Est-ce que c'est pas ça aussi la beauté? C'est que deux nouveaux coachs qui ont quand même un sacré nom, on les connaît bien dans le football européen, qui arrivent à performer. Est-ce qu'aujourd'hui, les nouveaux coachs, ce sont aussi ceux qui performent. Est-ce que ce sont eux qui apportent une nouvelle identité au football ?
Bah, moi, je pense que il y a quelqu'un qui, là, depuis quelques temps maintenant, au PSG, a peut-être apporté aussi cette, cette nouvelle image du coach qui soit capable de transcender, d'amener des idées, d'imposer des idées aussi à un vestiaire. Et on avait l'impression que peut-être ces dernières années, c'était d'abord les stars du vestiaire, les joueurs qui eux-mêmes faisaient l'équipe. Et aujourd'hui, là, Fernandez, n'importe quoi.
Enrique.
Luis Enrique a complètement peut-être changé la donne. Et on a l'entraîneur qui est au centre du projet et c'est lui qui impulse. Et puis c'est aussi, je pense que ça soit Lille ou ça soit Monaco, on n'a pas de stars méga planétaires, on va dire, qui sont là à vouloir attirer la couverture. Et l'entraîneur à ce moment-là peut-être aussi peut amener cette touche et imposer sa touche et sa vision.
Et puis mine de rien, c'est quand même des entraîneurs de renom. On va pas se mentir. Quand même, David Ancelotti, il est quand même fils de Carlo Ancelotti. Donc, mine de rien, il y a quand même une pression qui est immense parce qu'on parle pas d'un coach de district.
Hein. Tous les temps.
Exactement. Donc, il y a quand même aussi cette pression qu'il va falloir savoir gérer avec un club comme Lille. Donc, moi, je mets quand même l'avantage Felipe pour la question parce qu'il a quand même été habitué un peu plus à gérer cette pression, à gérer ce côté-là vestiaire, peut-être qui est différent pour lui.
Surtout qu'il sort d'une réussite à Flamengo, Felipe Luis, alors que à l'inverse, David Ancelotti, c'est pas très bien passé à Botafogo. Hein.
Non, et puis Felipe Luis, on se rappelle, hein, c'était prolongation
oui.
et tir au but. Hein, donc et puis il y a aussi ce côté. Pour Lille, faut pas oublier que ça s'est joué aussi à 2 secondes. Hein. À 2 secondes, ils avaient 9 points, Lille. Hein. Donc ces 2 secondes-là, avec un autre arbitre, un centre différent, elles n'existent pas. Et puis
on n'en parle pas ce soir.
Et on a pas le
même discours.
Et puis on a le même classement que Monaco, hein, ça c'est certain. Hein.
Alors justement, messieurs, parce que un des points communs de ces deux équipes en ce début de saison, c'est que les deux ont affronté le PSG. Mm-hmm. Justement, le PSG ne fait pas le meilleur début de saison de son histoire. Est-ce que je pose la question maintenant? Peut-être que c'est prématuré au bout de la 3e journée. Est-ce que le PSG est peut-être en train de perdre le titre?
Moi, je pense qu'il faut pas s'enflammer. Très honnêtement, ça fait maintenant la 3e ou 4e saison qu'on est avec Enrique. On a été habitué au début de saison un petit peu, il cale un peu, on a un peu de mal, on est un peu dans une phase de rodage, on n'arrive pas à finir devant les cages, etc. On a été habitué. On a aussi vu beaucoup de critiques, notamment sur les réseaux, etc. On a même eu, avant qu'il prenne sa première LDC, limite des gens qui voulaient qu'il parte. Clairement. Donc,
faut pas oublier que quand il arrive, Mbappé sur le banc, puisque il ne voulait pas prolonger. Ça commence par 2 matchs nuls où on s'ennuie à mourir sur le terrain. Il fait rentrer, je crois, Mbappé à un moment ou à un autre, et ça a fini aussi en match nul.
En polémique.
Oui.
Polémique surtout.
Ouais.
Parce que faire rentrer Mbappé à l'encontre de la direction, etc., c'était aussi...
Et donc, est-ce qu'on n'assiste pas à ce même type aussi de saison ? C'est-à-dire que, honnêtement, à Paris, ce qu'il a manqué, c'est le réalisme devant le but. Parce que les actions, elles étaient là. Hein.
Totalement.
Et puis surtout, regardez les adversaires, quoi. Concrètement, on affronte peut-être les 3 meilleures équipes de Ligue 1. Ouais. On affronte Rennes, qui a notamment été notre bête noire sur pas mal de saisons sur les années récentes.
À l'extérieur. Même si c'était
à l'extérieur. On a quand même Lille, qui, on vient d'en parler, est quand même plus qu'intéressant au vu de l'effectif, etc. Et Monaco, qui est potentiellement le rival pour cette année.
Et Monaco
à domicile,
qui est le club qui a battu le plus de fois, je crois, le PSG, parce que c'est, je crois, en statistique, c'est la bête noire du PSG.
On a
beaucoup parlé de Marseille pendant des années, mais c'est Monaco.
Ouais, mais Marseille.
Monaco, on perd chez eux, ils gagnent chez nous, c'est une horreur, Monaco.
Ça a toujours été. Hein.
C'est horrible. Même l'année dernière, ils perdent 3-1, quelque chose comme ça, je crois.
Même en Ligue des Champions, c'est chaud contre Monaco l'année dernière.
On a failli sortir.
On passe tout juste.
Je crois que c'est Doué qui nous sort de ce.
Comme ça, et puis leur géant de 2 mètres là, qui a failli mettre une tête au dernier moment, hein. Non mais ça c'est clair. Hein. Donc Monaco, c'est vrai qu'on peut mal juger peut-être les 3, et puis il y a pas l'attaque, elle est reconstruite de A à Z.
Ouais, c'est ça aussi.
Justement, sur cette attaque reconstruite, est-ce que il faudrait pas que des joueurs prennent un peu plus leurs responsabilités. Ouais. Est-ce que, en l'absence de Dembélé, qui, on le voit, manque de préparation,
poussif, je peux le dire, c'est poussif,
lui qui est revenu plus tôt, mm-hmm. est-ce qu'un Désiré Doué, est-ce qu'on peut pas être plus exigeant avec lui? Aujourd'hui, ça fait 3 saisons qu'il est au Paris Saint-Germain. Il a été quand même dans les grands rendez-vous présents, même si je trouve que c'est pas non plus des masterclass qu'il nous a fait à chaque fois. Voilà, est-ce que maintenant c'est pas à lui de devenir le leader offensif, parce qu'on demande beaucoup à Kvara, mais aujourd'hui est-ce que c'est pas Doué qui doit prendre ses responsabilités et devenir un peu le nouveau Dembélé entre guillemets?
Moi je pense qu'on pourrait être exigeant plus avec Kvara.
J'allais plus tenir ces propos là parce que Doué, mine de rien, il ménage pas forcément ses efforts. Et moi je trouve qu'en Ligue 1,
et Doué, il a une Coupe de Monde dans les jambes.
Aussi. Alors que Kvara, il arrive
Il y a des barbecues peut-être dans le ventre, mais
il arrive neuf. Non mais c'est vrai, c'est intéressant de le dire, et moi je trouve que Doué, certes, il y a des mauvais choix en Ligue 1, c'est indéniable. Généralement, il a tendance à vouloir trop porter la balle, il a tendance à faire les mauvais choix concrètement. Alors que Kvara, j'ai vraiment ce sentiment qu'en Ligue 1, il choisit ses matchs. Et je sais que c'est quelque chose qui a beaucoup été propagandé sur les réseaux, etc. Mais on peut pas on peut pas mentir en fait sur ce qu'on voit sur certains matchs.
Vrai,
quand il y a de l'adversité, il est présent. Mais quand on est sur des blocs bas, sur des matchs où voilà, on peut laisser un peu plus de liberté, etc., on le retrouve pas forcément, et je suis d'accord que ce serait lui qui devrait tirer l'alarme en fait.
Et alors, il y a aussi quelque chose aussi auquel on n'est pas dans l'équation, et c'est ce qui a aussi plombé le début de saison l'année dernière, c'est que il y a pas Mendes hein, sur le côté gauche.
C'est vrai que le rouge
Warren, il est magnifique hein, je veux dire, ce joueur c'est notre joyau hein.
Nouvelle coupe d'ailleurs.
Mais bon, c'est pas son poste hein.
Non, c'est vrai, c'est vrai.
C'est pas son poste, c'est pas son côté. Il dépanne bien, mais bon, on a vu que les boulevards, ils s'ouvraient aussi par là. À Lille, ça a été criant. Et y a pas Mendes. 3 matchs de suspension, Mendes, quand même, hein. Pour, bon, certes une faute, mais bon, faut pas exagérer non plus.
Oui, trois matchs
étaient, les 3 premiers matchs de la saison sans Mendes. Ouais. Et rappelez-vous, l'année dernière, quand, Hakimi se blesse, on joue, alors Warren, il arrive, il dépanne bien.
Parfaitement, même.
Mais on n'avait pas la même aura non plus. Parce que Paris, il joue sur les côtés. Ces fameux pistons phénoménaux que sont Mendes et Hakimi, c'est la réussite de Paris. Parce que une fois que là ils sont lancés, ça met tellement de bazar dans les défenses. Là aujourd'hui, sans Mendes, on peut pas non plus juger cette équipe.
Mais moi, j'aimerais rebondir sur un truc qui est intéressant quand même. C'est vrai qu'on n'a pas Mendes, mais pour vous, c'est quoi du coup le choix du coach de pas mettre Digne dans le groupe? Quand même, pour affronter Monaco, c'est quand même particulier quand t'as ton latéral gauche qui a pris un rouge et que tu recrutes un latéral gauche pour le remplacer. Pourquoi tu viens pas faire jouer sa doublure à ce moment-là?
Théorie, mais je me dis que Digne, jusque cette fameuse demi-finale contre l'Espagne, c'est un bon profil. Et il est recruté avant, hein. Je veux dire, toutes les discussions elles se font. Donc j'imagine que voilà, c'était déjà avant la demi-finale. Et la demi-finale, j'ai l'impression que ça lui a défoncé le moral et la confiance qu'il pouvait avoir en lui. Il y a peut-être une sentiment de culpabilité, hein. Je veux dire, le seul but au départ qui commence de l'Espagne, c'est sa faute, hein. Et la faute, elle lui est imputable, malheureusement, même si c'est on n'aurait pas pu lui parler, mais il n'empêche que c'est lui qui amène le penalty.
Est-ce que ça lui trotte encore dans la tête, ça?
On en a vu des joueurs comme ça hein, qui avaient de la confiance et puis tout d'un coup qui sont hyper fébriles parce que tout simplement un événement. Et
Lucas Chevalier, ouais. Clairement.
Justement, Baptiste en parle. Ouais. Lucas Chevalier, là on voit sur les réseaux sociaux une sorte de
retour en grâce.
C'est sa d'émergence de une haine envers Safonov, mais presque.
On dirait que le Tsar, le but qu'il prend, le deuxième but,
il est difficilement défendable. Il est difficilement défendable.
Il ressemble au but contre Arsenal, hein.
Ah ouais, non, franchement.
Est-ce que c'est pas simple d'aller chercher à chaque fois le gardien où on sait que c'est pas forcément le meilleur joueur de l'équipe? Est-ce que c'est pas simple? Voilà.
Ouais, mais de l'autre côté, Chevalier, ça lui est arrivé.
Oui, non, mais après, je pense que le poste de gardien de but, c'est quand même un poste où si t'es pas en confiance, si t'as pas les supporters derrière toi, si t'as pas ton coach, si t'as pas ton effectif, c'est quand même compliqué de pouvoir faire des bonnes performances. Honnêtement, quand t'es un Safonov et qu'il y a personne qui croit en toi, on l'a vu notamment à Nantes-Rodez avec
Maxime Dupé,
il se faisait insulter tout le match, le joueur il en prend 5.
Ouais.
C'est vrai. On va pas se mentir, c'est un poste où si t'es pas en confiance, c'est compliqué. Aujourd'hui, tirer l'alarme pour un Safonov parce qu'il y a des mauvaises performances, je sais pas si c'est le bon truc. Par contre, installer une concurrence légère dans certains matchs de Ligue 1, moi je suis pas contre.
Et puis bon, là, il y a Bratislava qui arrive au Parc des Princes.
Why not?
Peut-être, pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, il a perdu sa place. Ça serait pas illogique non plus de retenter. Hein.
Mais surtout que Lucas Chevalier, on connaît que c'est quand même un gardien très prometteur. On va pas se mentir, à Lille, c'était, il a été meilleur gardien de Ligue 1, je crois, à un moment. Et puis ouais, il a clairement un potentiel. Et je pense que c'est vraiment du coup l'aspect mental qui a beaucoup beaucoup joué pour le joueur.
Alors relancer Lucas Chevalier, mais alors justement, j'ai une autre question sur un autre joueur de l'effectif qui est un peu critiqué encore par rapport au match face à Monaco, c'est Achraf Hakimi. Est-ce que voilà, est-ce qu'il y a un débat à ouvrir sur Achraf Hakimi? Est-ce que on peut se dire, bah depuis cette grosse blessure face au Bayern, le fait qu'il ait enchaîné la CAN, qu'il ait enchaîné la Coupe du Monde, qu'il ait enchaîné la Ligue des Champions, est-ce qu'on n'est pas face à un joueur qui est pas un peu cramé, mais qui voilà, on sent que les retours il les fait moins, on sent que c'est un peu plus compliqué physiquement. Et est-ce que on n'a pas un questionnement sur pourquoi on n'a pas recruté à ce poste-là?
Moi, je suis plutôt d'avis, un peu comme toi, Naé, de dire pourquoi on n'a pas recruté, parce que très honnêtement, ça fait deux saisons qu'on voit que le joueur, il est quand même bien rincé. Mmh. Alors, je parle pas en termes de niveau de jeu, mais en termes d'état physique, on le voit, il est fatigué. Depuis la blessure, comme tu le dis, pourquoi, quand t'as un Guéladoué que tu peux aller chercher cet été, par exemple, qui est parti au Bayer Leverkusen pour 30 millions, je crois, quelque chose comme ça, pourquoi tu vas pas le chercher, en fait? Parce que c'est quelqu'un qui peut jouer en plus central droit, qui peut notamment avec un gros potentiel, donc que tu peux aller faire jouer à la place de Marquinhos peut-être dans quelques années. Pourquoi tu vas pas le chercher? Pour moi, c'était une occasion clairement à prendre, et aujourd'hui tu dois faire souffler ton joueur. Tu peux pas te reposer sur Warren Zaïre-Emery, qui est ton couteau suisse, qui doit jouer au milieu, qui doit jouer maintenant à gauche, qui doit jouer partout. Au bout d'un moment, t'as plus de doublure pour Hakimi, et quand il fait des mauvaises performances, bah, qu'est-ce que tu fais?
Mais est-ce que dans la tête du staff, c'est pas Warren qui est ce joueur en fin de compte qui joue?
Ouais, mais il est partout.
Mais il est partout, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que bon, il y a Hakimi qui est là sur son côté droit, et qu'il fallait mettre quelqu'un à côté gauche. Mais bon, je pense que dans la tête de Enrique, c'est Warren Zaïre-Emery qui doit prendre ce côté droit. Et honnêtement, on l'a même vu, et bon, on refait pas l'histoire, et Paris a gagné sa deuxième Ligue des Champions, mais est-ce qu'il n'aurait pas été plus exceptionnel sur ce côté droit qu'un Hakimi qui revient et qui est pas à 100%? On le voit, mais ça c'est clair. Enfin, je veux dire, les fulgurances qu'on avait, la saison merveilleuse qu'il a faite avant, donc pour le
duo Dembélé Hakimi, l'année où il y a encore Kylian Mbappé,
oui,
il est magnifique.
Oui,
il est magnifique. C'est que par le côté droit que ça passe.
De la première victoire en Ligue des Champions,
pareil.
Il est stratosphérique.
Il est décisif à tous les tours. Il est dans un débat Ballon d'Or, les gars.
Ouais. Et alors, est-ce que ça n'a pas joué aussi? Est-ce que ça n'a pas
la
joué?
La déception, ouais, de pas du tout. Ouais, parce qu'il finit quoi, cinquième?
Quelque chose comme ça, je crois.
Ouais.
Ouais. Alors que bon,
il est pas podium, etc. Alors que pour certains, on en parlait quand même.
Il avait
beaucoup
peut-être
pour,
même presque autant de légitimité. C'est lui qui quand même qui met le premier but.
Puis même, finale, je crois, ouais, qu'il en met en face à Arsenal.
Il en met un à chaque tour.
Ouais, il est décisif dans les premiers en finale, etc.
Mais oui, l'année dernière, cette saison, elle a été. Je pense aussi, il y a eu la déception de la CAN. C'est quelqu'un qui mettait et qui misait énormément sur la CAN. La blessure, elle est monstrueuse parce que forcément il a cravaché, et après derrière c'était Coupe du Monde. Donc
et il y a aussi ses affaires extrasportives.
Alors
on
ça
rappelle,
ouais,
c'est aussi qui doit trotter aussi dans sa tête.
On parlait de l'aspect mental tout à l'heure, je pense que ça doit jouer.
Il y a une année, je pense, qui est bien chargée, hein. Et justement, est-ce que le PSG aujourd'hui en fait ne manque pas de ses latéraux, en fait? Est-ce que c'est pas ça qui lui manque, c'est sa paire de latéraux qui a fait sa force sous Enrique? Est-ce que c'est pas ça qui manque? Parce qu'on voit sur les deux buts face à Monaco, c'est Hakimi qui est coupable, parce qu'il a pas fait les replis. Parce qu'on le voit sur le but de la tête de Nazinho, on le voit, il est attentif, il regarde et il se déplace même pas, il est pas concentré. On dirait qu'il est cramé. Et pareil pour de l'autre côté, bon, c'était Zaïre-Emery, c'est pas son poste, etc.
Non,
mais
ouais,
voilà, il manque Nuno Mendes, il manque Hakimi. On voit que quand un des deux n'est pas là, c'est dur pour Paris, quoi. Et comment on fait pour régler ça? Comment Luis Enrique, il doit faire?
Ça va être la grosse question. Ça veut dire aussi peut-être un joueur de couloir qui va redescendre aussi, qui va apporter. Doué est là pour ça. Doué est capable de faire ça.
Guevara aussi, en Ligue des Champions, il a déjà prouvé plus d'une fois que les retours, il sait les faire.
Bon, on les a vus, on en a vu quelques-uns, je crois.
Non, mais en Ligue 1, il en fait. Parfois.
J'ai vu contre Lille. Non, c'est pas contre Lille.
C'était contre Rennes. Hein.
Contre Rennes.
Contre Rennes, ouais.
Alors contre Rennes, en revanche, par exemple, Doué, moi, j'ai trouvé vraiment intéressant. C'était lui qui est au-dessus du lot, alors que les autres, c'est vrai que bon, il y avait pas scandale de voir sortir Dembélé et puis Guevara à la mi-temps.
Et puis Dembélé, on a vu que notamment il avait demandé, ça a été vu avec Enrique, de se reposer un petit peu plus, ouais, voilà. Donc Ouais, non, je pense que c'est la solution douée sur les retours, ça peut être pas mal, surtout qu'on a plus de mercato, donc on peut pas faire autrement, concrètement, on va falloir faire avec ce qu'on a.
Et puis, bon, moi, ça fait deux fois aussi que je vois le petit drôle, là, qui rentre.
Mm-hmm.
Intéressant. Il dynamite,
hein. Et puis, je sais pas si vous avez remarqué par rapport à la saison dernière, moi, je le trouve beaucoup plus physique.
Ouais. Ouais, c'est étoffé.
C'est-à-dire que là, j'ai vu, notamment, dans le match face à Monaco, une percée, sur la fin du match où il rentre. Mmh, il vient s'écrouler surface, etc. Mais, intéressant parce qu'il reste à l'épaule, etc. On sort du profil uniquement, techniciste, voilà, qu'on avait pu voir la saison dernière, qui était peut-être un peu limité, notamment pour la Ligue 1.
Ah, non, mais là, on sent qu'il y a un joueur qui a du caractère et il a pas hésité. Et contre, c'est contre Lille qui fait sa rentrée ou
il en fait une contre Monaco de sûr.
Ouais, une contre Monaco, une contre Lille.
Ouais, contre Lille et c'est là que ça a amené le dynamisme et que les deux buts sont marqués hein, parce que c'est lui qui amène quelque chose et il y a un potentiel, il y a vraiment un potentiel. Et honnêtement, moi j'aurais aimé le voir un peu plus que par exemple à Cliouche. Alors bien sûr, il faut l'intégrer, c'est un joueur, il faut prendre son temps, mais peut-être qu'il faudrait peut-être un peu plus prendre son temps et quelqu'un comme Drault aurait peut-être un peu plus d'influence au milieu qu'aujourd'hui qu'à Cliouche qui
est neutre.
Qui tergiverse beaucoup quand même.
Qui est quand même, moi j'ai trouvé sur ses entrées qui est quand même alors faut pas crier au loup parce que on est quand même que sur 3 matchs de Ligue 1, mais je l'ai trouvé quand même assez neutre dans ce côté percussion etc. que peut avoir un allié. Voilà, c'est ça.
Il joue beaucoup vers l'arrière.
Vers l'arrière, et puis
au niveau impact physique.
C'est ça. Voilà. Et c'est léger.
Faut qu'il aille à la salle de sport avec Warren.
Et messieurs, en un mot, comme ça après on passe à un autre sujet. Mm-hmm. Est-ce que le PSG finit champion, oui ou non?
Oui.
Oui.
Pour vous, le PSG finit champion?
Ouais, ouais. Faut argumenter ou?
Pas besoin d'argumenter.
Bah, sûr. Parce que on a Madame Irma qui a dit, il a pris le pari, on prend le pari avec lui. Et il avait déjà annoncé que Paris serait plus fort au départ de Kylian Mbappé. Il a toujours eu raison. Hein.
Bon, on va suivre Madame Irma. J'ai envie de me pencher un peu plus sur toujours en France, mais cette fois-ci sur l'équipe de France, messieurs. Zinedine Zidane est arrivé, ça a fait grand bruit, mais j'ai l'impression que ça s'est un peu calmé. Sa liste arrive le 18 septembre. Est-ce qu'on peut avoir des surprises? Est-ce que vous, il y a un joueur? Est-ce que vous, alors, d'abord, est-ce que vous pensez que justement, ça va énormément bouger? Ou alors, est-ce que il va arriver doucement? On reprend ses prédécesseurs, notamment Deschamps.
Enfin, moi, je veux que ça soit Warren au milieu.
Là, c'est ses choix. Là, c'est ses choix.
C'est clair. Mais non, mais je veux dire, avec ce qu'on a vu, de la demi-finale, s'il n'y a pas quelque chose qui est mis au niveau de ce milieu de terrain où on est vu où ça se fait manger mais littéralement.
Ouais, et avec la sortie de Rabiot en plus qui faisait la meilleure performance sur les 11.
Tchouaméni qui était sur une jambe, il n'y avait pas d'impact, il n'y avait rien. Et quand on est face à des Espagnols sans impact, bon bah dans ces cas-là, on prend le popcorn, on s'assoit dans le fauteuil, on regarde jouer quoi. Et non, il faut un impact. Et cet impact-là, il a cette image quoi. Il a l'image d'un guerrier.
Moi, je pense que va y avoir des changements dans le 11, mais pas forcément des changements dans la liste, parce que tu peux pas déstabiliser un groupe qui est soudé comme ça, en arrivant et en changeant tout. Je pense que va pas y avoir non plus, va y avoir une ou deux surprises comme d'habitude, parce qu'on reste sur un nouveau sélectionneur, mais je pense pas qu'on va avoir énormément de gros changements. Je pense notamment par exemple à N'Golo Kanté qui sera pas forcément appelé pour moi.
Ouais, non,
je pense qu'on est sur la fin.
Je pense qu'on est sur la fin. Ouais.
Je pensais notamment peut-être à
même les frères Hernandez. Hein.
Ouais, voilà, les frères Hernandez avec la Coupe du Monde, surtout Théo qui est quand même remplacé par Digne dès le début et qui se fait bench très clairement.
Et puis, alors, si on reprend les hommes forts de ce début de saison en Ligue 1, est-ce que un homme comme Esteban Le Poll peut prétendre à cette place de numéro 9, par exemple à la place d'un Marcus Thuram, qui honnêtement, bon,
c'était mon point suivant. Pour moi, il y a la question Le Poll, mais pour moi non. Pour moi, je pense qu'il peut prétendre dans les prochains rassemblements, mais au premier rassemblement, marquer le coup comme ça, sortir un joueur du groupe, ça envoie un message fort. Et on a quand même Marcus Thuram qui vient de marquer là dans le match contre le Napoli. On a un joueur qui est quand même assez en forme en club. Certes qu'il n'est pas en équipe de France, mais je pense que tu veux quand même d'abord voir à quoi ressemble le groupe avant de faire jouer des joueurs qui sont jamais venus, quoi.
Ouais. Ou alors c'est vrai que peut-être qu'on va peut-être s'attendre à des choses qui soient un peu plus personnel et moins entre guillemets familial, c'est-à-dire que moi ce dont j'avais l'impression un petit peu, c'est que voilà, on rentrait dans le groupe de Deschamps et on sortait jamais du groupe de Deschamps.
Ouais. Si Thuram, Colomoigny, etc.
Pas,
c'est vrai que
pas
ça
de vague,
moment...
mais même pendant longtemps le troisième gardien, ça a été
Areola.
Areola. Alors que bon, Areola, bon. Il y avait quand même
il y avait des prospects, bah, les Lucas Chevalier à ce moment-là qui faisaient des très grosses saisons, des Meslier, etc. Ouais, c'était intéressant.
Bon, on l'a vu, bon, on parlait de Colomani, pas Colomani, bah si, Colomani, on a parlé de N'Golo Kanté. Voilà, des joueurs qu'on rappelait qui, bon, mine de rien, il y avait quand même de la matière.
Il y a eu de la polémique là même pour la Coupe du Monde, pour les Thauvin, les Tolisso. Ouais.
Oui.
Tolisso qui sort une très grosse saison avec l'Olympique Lyonnais et au final qui n'est pas du tout appelé.
C'est dur.
Je pense que il y a peut-être des questions qui vont réapparaître, qui vont ressurgir et on a peut-être hâte d'être au moment de la liste. C'est le 18, c'est ça?
C'est le 18, c'est ça.
Et puis il y a des joueurs qui vont peut-être, enfin, il aura peut-être une envie de touche technique.
Alors justement. Est-ce qu'un homme comme Ryan Cherki n'a pas son rôle à jouer là-dedans?
En tant que titulaire?
Ouais.
Tu parles? Je pense que il peut quand même apporter une touche supplémentaire. Après, est-ce que Zidane va, c'est son style de joueur, il aime les 10. On le sait, il veut jouer avec un 10, il veut le placer en tant que tel. Est-ce qu'il va prendre Cherki? Est-ce qu'il va prendre Olise? Est-ce qu'il va prendre Dembélé? Est-ce qu'il, voilà, il y a d'autres profils. Le problème, c'est qu'en équipe de France, on a quand même des très gros noms. Est-ce que c'est lui qui va sortir du lot, je sais pas.
Et qu'est-ce qu'on fait de Mbappé? Est-ce que Mbappé va rester en pointe? Est-ce qu'il va aller à gauche? On sait qu'il a eu CR7, notamment Zizou, au Real. Voilà, il l'a eu à une période où justement lui aussi était dans sa transition ailier gauche, buteur, voilà. Qu'est-ce qu'on fait de Kylian Mbappé?
Est-ce que Zidane aura l'influence de rappeler à Mbappé que son rôle et son poste, c'est peut-être là ou là? Lui expliquer que peut-être aussi comment amener un être attaquant de pointe dans l'équipe de France et ne pas vouloir mettre une seule tête. Enfin, il y a des choses comme ça qui font que voilà, il y a des profils et sur un côté gauche, il est aussi percutant et peut-être que il va peut-être entendre. Hein. Quand ça sera le roi Zidane qui va lui en parler, peut-être
ouais,
qu'il aura un petit peu.
Moi, je pense que c'est soit il le fait dès le début.
Ouais.
Soit il le fait pas, quoi.
Ouais.
Globalement, on va le voir dès le premier rassemblement. Où est-ce qu'il va l'aligner? Peut-être qu'il va l'aligner en pointe pour le faire décaler à gauche, comme il le fait un petit peu en club, très souvent, comme il aime le faire. Mais je pense que s'il y a un changement drastique à avoir dans son positionnement, on va le voir dès les premières secondes du rassemblement, en fait.
Et pour vous, qui seront les grands perdants, justement, de ce rassemblement? Est-ce que vous voyez un titulaire qui était là, sous Deschamps, qui était sûr et certain?
Moi, je pense que Dembélé.
Dembélé.
Ouais.
Pourquoi?
Moi, je pense que Dembélé, parce qu'en équipe de France, Dembélé, il n'a pas l'aura.
Il n'est pas au rendez-vous.
Mais aussi, à sa décharge, on ne lui demande pas le même rôle.
C'est ça.
Bah, il joue neuf en club, alors qu'il jouait ailier droit en sélection. C'est sûr que c'est pas facile.
Est-ce que Dembélé aujourd'hui, il a pas aussi ce rôle Luis Enrique compatible? Je veux dire, est-ce que c'est pas
mais
un gars
clair.
Que quand tu le sors, tu le mets dans n'importe quel
joueur de système?
Est-ce que c'est pas un joueur de système?
Le fameux joueur de système qu'on entend tant sur les réseaux sociaux en ce moment.
Pour l'instant, moi, j'ai l'impression que Dembélé, c'est un joueur de système. J'ai l'impression qu'on a trouvé un peu sa kryptonite. Et que voilà, là, il est dans son élément, et que si tu le sors, t'as beau le mettre en première ligue.
Moi, je suis assez d'accord avec toi, Romuald, sur l'aspect que Dembélé va être le grand perdant, parce que Dembélé, ils ont essayé. Dembélé, on l'a vu notamment aux entraînements à la Coupe du Monde. Je sais pas si vous aviez vu les extraits, etc. Toujours en joker, toujours. C'était le joueur qui était le plus mis en avant. Donc, je pense que Deschamps a quand même essayé de l'intégrer encore plus, de le faire prendre un rôle clé. Alors, on l'a vu statistiquement à la Coupe du Monde, il reste troisième joueur le plus décisif de la Coupe du Monde.
Non,
statistiquement, il est bon. Mais est-ce qu'on est là pour parler des stats ou parler du terrain? Concrètement, on a vu les matchs.
Le Dembélé, il est capable de tuer une mouette comme il est capable de mettre le but de l'année.
Tuer une mouette. Ah, c'est fort.
C'est vrai. Enfin, je veux dire, il y a des fois, c'est incompréhensible.
Ouais, c'est vrai qu'il est capable du meilleur comme du pire.
Ah, oui.
Il nous le rappelle très souvent. D'ailleurs, j'aurais aimé qu'il le mette au fond Monaco pour faire un petit débat.
Oh là là.
L'arrêt de Radecki.
Ah mais
il est magnifique, main opposée, il est monstrueux, fin du match, etc. pour égaliser.
Et puis même à Lens, quand le ballon il revient derrière lui, qu'il peut la remettre en reprise de volée et qu'il la fout au-dessus.
Ouais, c'est vrai, dans le trophée des champions.
C'est quand même des ratés qui sont quand même, on le voit sur ce début de saison, il faut qu'un
Il fait
sans confiance. Hein.
Il fait pas le même avec l'équipe de France?
J'ai pas souvenir.
J'ai
lequel?
C'est pas lui qui loupe alors qu'il y a eu une action de folie avec Olise et tout ça?
Il y en a eu beaucoup avec l'équipe de France.
Ouais, mais bon, peut-être.
Je suis assez enclin avec vos propos dans le sens où clairement pour moi Dembélé, il a c'est des offensifs, c'est celui qui a le plus de chances de se faire bench ou au moins d'avoir moins de minutes.
Ou alors Zidane, parce que nous on n'est pas dans les vestiaires, on n'est pas sur le terrain et tout ça, et il y a aussi l'attitude. Ou alors, il juge un Olise trop nonchalant, trop distant du groupe, trop dans son monde et des choses comme ça. Et on l'a vu aussi, hein, Olise, lors de cette demi-finale.
Invisible.
Il y avait pas débat à ce qu'il sorte, hein. Donc, ça va dépendre de la manière dont c'est vrai que ces joueurs vont s'imposer, vont montrer ce qu'ils ont envie. Bon, on pense que Mbappé, d'une part, par son image, par ses qualités quand même. Enfin, je veux dire, faut pas nier. Il y a aussi le côté Real, hein. Enfin, je veux dire, Zidane, il est quand même le Real, il a quand même dans le cœur et tout ça. Donc, il y a aussi quelque chose là-dessus. Donc, lui, l'intouchable, on va dire. Et c'est vrai que les deux autres, parce qu'il y a un Doué qui frappe aussi, hein. Peut-être que.
Et puis, qu'est-ce que Barcola va faire à Liverpool? Mateta va. Bon, il sera pas dans les quatre premiers, mais est-ce qu'il sera rappelé aussi?
C'est vrai qu'on oublie Barcola, mais c'est vrai que.
Barcola, oui, il fait une vraie bonne Coupe du Monde. Pas sur tous les matchs, mais il est quand même dans les statistiques, il est présent. Je l'ai trouvé intéressant, dynamique, etc. Il apporte quand même une qualité que le reste de l'équipe n'a pas forcément, c'est-à-dire cette qualité de percussion vraiment rapide qu'Mbappé ne joue pas vu qu'il veut pas jouer avec. Donc concrètement, Barcola, il a quand même sa pièce à jouer. Hein.
Et un joueur qui va jouer en première ligue et qui va donc s'étoffer aussi.
Exactement.
Qui va donc prendre de l'ampleur, qui va savoir jouer aussi physiquement, parce que bon, on dit que la Ligue 1 est physique, mais bon,
je pense qu'un peu plus. Et justement, pour vite finir, est-ce qu'un gars comme Tchouaméni, justement, comme il est du Real, mais on sait que c'est pas forcément le joueur que Zidane apprécie. Est-ce que
ou Kamavinga aussi. Hein.
Kamavinga aussi. Qu'est-ce qu'on en fait?
Kamavinga, c'est compliqué. Hein. Ouais. Moi, je pense que Kamavinga sera pas appelé.
D'accord.
Une nouvelle fois. Et je pense que Tchouaméni sera appelé, mais pas titulaire.
D'accord. Peut-être Zaire à sa place.
Ah bah
comme
c'est
tu
clair.
Le souhaites.
Non mais c'est clair. Non mais enfin là aujourd'hui, ce mec-là, il a 20 ans quoi.
Sur les tendances actuelles, c'est vrai que
non, et puis la débauche d'énergie.
20 ans.
Le volume de jeu du joueur actuellement, on en fait peu, hein, comme
c'est
lui.
Phénoménal. Ah, c'est impressionnant.
Et puis de la première à la 90e quoi.
Ah oui.
Il te fait pas un moment où tu le sens essoufflé, etc. Non.
Puis c'est un esprit d'équipe. Enfin, on sent que on sent pas du tout une âme,
une frustration,
une couverture même,
alors qu'il aurait pu. Hein.
Ouais, avec le peu de temps de jeu qu'il a eu, etc. En plus, c'est un joueur qui peut jouer à plusieurs postes, on en a fait les louanges tout à l'heure. Ouais. Franchement, il aurait pu jouer un peu plus quand même.
Faut pas oublier, hein, quand on parle du PSG, un match à Dortmund où s'il marque pas le but, Paris n'est pas dans la suite des événements. Hein.
C'est vrai.
Merci messieurs pour ce petit point sur le football professionnel français. On s'accorde une nouvelle pause musicale et au retour, nous traverserons les frontières pour parler du football européen. Restez avec nous sur IDFM Radio en écoutant les Daft Punk et The Weeknd. I feel it coming. Tell me what you really like. Baby, I can take my time. We don't ever have to fight. Just take it step by step. I can see it in your eyes. Cause they never tell me lies. I can feel that body shake and the heat between your legs. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run, I know what you've been through. Just a simple touch and it can set you free. We don't have to rush when you're alone with me. Not the single type, so maybe this the perfect time. I'm just trying to get you high, fade it off this touch. You don't need a lonely night, so maybe I can make it right. You just gotta let me try to give you what you want. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run, I know what you've been through. A simple touch and it can set you free. We don't have to rush when you're alone with me.
did to you. You don't have to run, I know what you've been through. Just a simple touch and it can set you free. We don't have to rush when you're alone with me.
Grand Opéra Show, seulement sur IDFM Radio.
Vous êtes toujours à l'écoute du Grand Opéra Show sur IDFM Radio, l'émission qui parle de tous les footballs. Après avoir parlé de notre beau pays qui est la France, direction l'Europe, nous allons parler de ce qui a animé la planète foot récemment.
I recoup the ball.
On parle Europe dans le Grand Opéra Show.
On commence ce tour d'Europe avec le grand retour de la Ligue des Champions. Messieurs, ça y est, ça revient demain. J'ai envie d'écouter, voilà, dès le début on commence, fort, direct, c'est qui votre grand favori? Qui sont vos, allez, je vais vous dire vos deux grands favoris pour cette Ligue des Champions.
Bah moi je vais pas être très très original, hein. Je vais pas mentir que pour moi les deux grands favoris de cette année, bah c'est Arsenal et c'est le Paris Saint-Germain. Parce que pour moi le PSG est encore plus fort que la saison dernière, alors évidemment avec le début de saison un peu... Un peu compliqué, c'est bizarre de dire ça, mais je pense qu'ils se sont quand même renforcés, notamment au niveau de la profondeur de banc cette année. On a vu les arrivées de Mika Götze, il y a eu Ferran Torres, il y a eu Akliouche, ça fait du bien. On a eu Lucadigne aussi. Moi, je pense qu'on a un PSG qui est encore plus complet que les années précédentes, avec certes le départ de Barcola qui est quand même non négligeable, mais on a quand même une plus grosse profondeur, on a quand même un 11 qui est inchangé. C'est le même 11 depuis 2 ans et on est quand même double champion d'Europe, donc je pense qu'on fait peur à tout le monde littéralement. Donc ouais, je vois quand même le Paris Saint-Germain, surtout qu'on les connaît, ils ont tendance à de plus en plus fort au fur et à mesure de l'année, surtout quand ça s'accélère au mois intéressant, voilà, tout ce qui est février, janvier, février, mars, etc. Donc ouais, je vois le Paris Saint-Germain. Je sais pas vous.
Moi, il y a le cœur qui parle, donc c'est des fois difficile d'être raisonnable. Mais c'est vrai que Paris, je suis d'accord avec toi sur ce. Quand il y a des joueurs qui rentrent comme Fernand Torres, on a beau le dire, mais c'est vrai que on sent un joueur qui a plus d'impact que n'avait Gonzalo Ramos.
Pour moi, c'est parce qu'il est totalement compatible aussi avec
exactement.
Mika Götze, on sent un joueur aussi. On plus fort que Gangini, et surtout je pense que ce sont des joueurs qui vont peut-être aussi plus s'intégrer. Gangini, on le sentait pas non plus une intégration au groupe aussi.
Il y avait eu pas mal de polémiques autour de Gangini sur la nonchalance sur l'intégration au groupe.
Alors,
qui était compliqué.
Est-ce que messieurs, c'est pas Gangini qui est remplacé par Akliouche et pas Götze qui remplace Barcola?
Oui, bien sûr. Non, Mika Götze, on a un joueur quand même avec un profil super intéressant, très sexy l'entrée contre Monaco. Franchement, on voit un joueur qui sait taser, qui sait
qui percute,
qui est intéressant. Et moi, j'ai trouvé qu'il était même sur les 20-30 dernières minutes contre Monaco leader un petit peu de cette attaque, alors que c'est un arrivant. Donc moi, j'ai hâte de voir vraiment. Je salive un petit peu des prochaines rencontres du Paris Saint-Germain, notamment bientôt contre. En LDC contre Bratislava.
Si c'est le Akliouche qu'on a vu avec Monaco l'année dernière qui est venu entre guillemets presque humilier Paris, hein, on va pas se mentir.
Clairement.
Hein, ouais. C'est lui qui est.
Et souvent d'ailleurs contre Paris, il est souvent très très fort.
Voilà. Et donc ce que Kangini n'était pas capable de faire. Kanginli était magnifique avec son pied gauche, certes.
On l'a vu avec l'Atlético.
Service quand même. On pense à Tottenham par exemple. Mais en l'occurrence, c'est vrai qu'au niveau de la profondeur de banc, on a quelque chose qui est quand même beaucoup plus intéressant. Et peut-être aussi qu'on aura quand même aussi des joueurs qui seront un peu moins fatigués quand même que ce qu'ils ont connu l'année précédente, parce que la Coupe du Monde, c'était pas la même chose que le Mondial des clubs.
C'est vrai que l'année dernière, on a commencé la saison quand même bien plus crâne.
On le sent. Et puis, moi, je sais pas, en regardant Paris jouer, j'ai eu moins cette impression de blessure qui arrivait et qui rôdait comme ça sur le terrain. On sent des joueurs quand même qui sont un peu plus libérés. Alors que l'année dernière, début de saison, rappelez-vous, quand on va à Barcelone avec l'équipe
bis, c'est compliqué. Et puis même, dès le début, on a Dembélé, on a Doué qui se blesse. Ouais. C'est vrai que c'était un peu cata au niveau de l'infirmerie.
C'était Mayulu, l'attaquant contre Barcelone.
Et on va quand même les taper là-bas.
Mayulu Mbaye.
Exactement.
Mayulu Mbaye. Ouais. Mais surtout, j'aimerais dire que dans une double confrontation, quand on va y avoir les barrages, les huitièmes, etc., je vois très peu d'équipes qui peuvent prétendre, alors nous déstabiliser sur un match, j'entends. Maintenant, sur une double confrontation, dont une au Parc, qui quand même commençait à mettre du respect sur le Parc des Princes en termes d'ambiance, etc.
On a vu, je veux dire,
mais même à l'extérieur,
le match contre le Bayern, le Parc des Princes, c'était fou,
c'était bouillant,
c'était fou.
Mais ouais,
avec un banc plus costaud l'année dernière, Paris se fait peut-être pas remonter comme ça. Ou en tout cas,
ouais, je pense aussi, parce que les entrants, ils étaient pas forcément, ils ont pas game changer quoi. Mais ouais, je pense que sur une double confrontation, alors je mets mon veto sur le Bayern, parce que le Bayern fait toujours très peur.
C'est les Allemands.
Moi, c'est mon favori.
Le deuxième.
Ouais.
Ok. Ouais, non, ça s'entend.
Parce que l'année dernière, honnêtement,
c'était la meilleure équipe par le PSG.
On a assisté à quelque chose de fantastique, mais honnêtement, en plus, la finale aurait dû être Bayern PSG.
C'était une finale avant l'heure.
Ah, voilà, clairement.
C'est ça. Et honnêtement, c'était l'équipe quand même qui nous a le plus, en termes de d'attitude aussi, parce que là on parle d'Arsenal, l'attitude d'Arsenal on l'a vu en finale. Cette fois-ci, ils pourront plus jouer non plus avec les touches comme ils ont fait avant. On a enfin vu un arbitre qui avait commencé un petit peu à appliquer des consignes qui aujourd'hui sont appliquées et vont être, j'imagine, en Champions League encore plus drastiques. Ça va peut-être éviter ce genre de folklore où on perd un temps infini, on joue avec la montre, et un jeu porté vers l'action et non plus uniquement perdre peut-être un quart du temps à aller chercher des ballons, puis en choisir et puis regarder si la couture est bonne et tout ça. Donc bon,
non mais
ça peut jouer ça aussi.
Moi, je suis quand même nuancé sur ce propos-là parce que Arsenal, ils sont différents. Je les sens dans ce début de saison quand même vraiment différents de l'année précédente où je suis totalement d'accord. C'était peut-être l'une des équipes les moins sexy à avoir joué. Honnêtement, on en a tous regardé un match l'année dernière, que ce soit en Première Ligue ou même en Ligue des Champions.
C'était très dur.
C'était souvent des matchs à 1-0. Voilà, on compte sur la défense parce que mine de rien, le secteur défensif, pour moi, c'est le meilleur d'Europe actuellement. Ils ont clairement deux défenses de classe mondiale avec les Gabriel, Saliba,
Saliba
qui sont partis chercher à Aston Villa.
Saliba est blessé quand même, non?
Saliba, il est blessé, mais derrière, t'as Mosquera, t'as Ben White, t'as Incapié,
t'as Upamecano, hein.
Oui, non, j'entends, mais
à côté c'est Jonathan Tah,
c'est pas forcément bon, voilà.
Mais bon, Upamecano, il avait aussi à côté de lui, il avait aussi il avait moins de qualité également, parce que quand Saliba se blesse, il y avait un peu moins de qualité.
Ouais, non, mais
et on a vu le patron que ça a été, et je pense, enfin moi j'ai eu l'impression qu'en tout cas qu'il s'est encore révélé plus durant cette Coupe du Monde et qu'il a pris un
autre statut.
Ouais. Mmh. Et honnêtement, on parlait tout à l'heure de l'équipe de France, des changements. Je sais pas, Zidane, ça t'aurait dû le trotter dans la tête aussi en tant que capitaine. Je pense que Upamecano, il aurait un peu plus de.
Là, si on parle du capitaine pour Mbappé, je pense qu'il va pas bouger celui-là.
Oui, malheureusement. Mais si on voit le meneur d'homme que c'est, peut-être aussi qu'au sein du Bayern, il a des choses aussi à jouer.
Je pense individuellement, pour moi, c'est peut-être même devant Pacho. Très honnêtement, à l'heure actuelle, je pense aussi.
Ah bah s'il faisait la doublette Pacho ou Upamecano.
Ah mais mon rêve pour le Paris Saint-Germain.
Tu peux mettre un poussin dans les buts, il y a pas de problème.
mais en termes de défense, vraiment, moi je parlais vraiment de la défense globale, pas seulement d'individualité. Pour moi, la charnière centrale qu'a Arsenal à 100%, parce que Saliba, on sait qu'il est encore blessé, je crois là.
Oui.
Gabriel Saliba, on est quand même sur quelque chose d'extraordinaire.
Très solide.
Et vraiment la profondeur derrière demain t'as pas Saliba, t'as contre ça. t'as Moscardo, t'as Ben White, enfin t'as quand même des joueurs de qui pourraient être de titulaires indiscutables dans certains gros clubs de première ligue. Vraiment, ils ont quand même une profondeur exceptionnelle, et surtout parce que là je fais le pari de parler de la défense, qui est quand même un atout qui était déjà présent l'année dernière. Moi, je trouve que cette année, offensivement, il y a quand même de nouvelles choses qui sont proposées. On les a vues dès le début. Voilà, ils gagnent 3-0, je crois, dans contre Manchester City, 3-0 contre un promu, Coventry. Ça marque l'année précédente, ça marquait beaucoup moins, je trouve, Arsenal.
Alors justement, est-ce que c'est pas leur titre qui ont cessé à leur trotter dans la tête depuis des années de reprendre ce titre?
Ah bah c'est sûr que ça, on parlait de mental, ça c'est sûr que ça les a boostés. Hein.
Ils sont libérés là, j'ai l'impression que, et ça y est, j'ai l'impression qu'ils ont aussi cette mentalité de se dire
on peut gagner.
On peut gagner, mais ça y est, maintenant, on n'a plus besoin de gagner. C'est plus un besoin.
C'est plus une pression.
Et maintenant, on peut gagner, mais avec la manière, maintenant.
Un peu comme Paris avec la Champions League.
Exactement.
Non, mais c'est vrai. C'est vrai que ça, on sait que ça débloque beaucoup de choses.
Mais est-ce que eux vont pas être focus aussi, dans ces cas-là, sur la Champions League? Parce que c'est aussi ce qui leur manque depuis un nombre d'années.
Ouais, je pense qu'il y a ce, il y a ce cap.
Ils ont jamais gagné, plutôt même.
Ils ont jamais gagné.
Ils ont jamais gagné Champions League.
Non, c'est sûr. Mais non, je pense qu'il y a quand même ce gap quand même en Ligue des Champions. En effet, c'est pour ça que pour moi c'est pas mon favori, c'est l'un de mes favoris. Mais avec le renfort qui est au milieu de terrain, notamment avec Bruno Guimaraes qui sont partis chercher, il y a quand même une équipe qui fait peur sur le papier, qui fait peur. Juste mon petit voilà. Disclaimer, enfin warning plutôt, c'est que devant ils recrutent personne à part Tsolis qui vont chercher très honnêtement je le connaissais même pas, qui vont chercher à Bruges.
Martinelli qui est parti, je crois.
Martinelli qui part, donc honnêtement t'as quand même un secteur offensif qui reste léger, je pense, et qui vont devoir aller se positionner sur un ailier d'ici le mercato d'hiver, parce que sinon ils pourront pas prétendre à une victoire finale. Juste, on a quand même Arteta qui a arrêté de titulariser Ducobu devant en parlant de Victor Gyökeres, parce que j'assure que même s'il met 14 buts en PL la saison précédente, c'est quand même un joueur qui dans le jeu propose que très peu de choses, je trouve, et moi qui me plaît pas du tout, et je trouve que Kai Havertz par contre en neuf me plaît beaucoup plus.
C'est redoutable.
Ça match peut-être un peu plus avec Mikel Arteta.
Ouais, je pense aussi. J'irais pas dire redoutable non plus, mais c'est déjà plus intéressant.
Alors. Messieurs, du coup, si je dois résumer, Bayern, Paris, Arsenal, c'est les trois favoris. Si on parle des clubs français, cette fois-ci, on va parler un peu plus du PSG après, donc j'aimerais me concentrer sur Lens.
Juste fou, c'est que on oublie quand même les Espagnols, c'est fou, ça. Genre Barça et
Real. S'il fallait en citer trois, moi, j'aurais pas cité le Bayern, j'aurais cité Barça, parce que y a quand même un travail qui est à souligner. Selon moi, ils ont le meilleur joueur du monde, qui est Lamine Yamal. Même si je suis pas fan du joueur, même si je suis pas fan de l'humain, c'est indéniable, le joueur, enfin le garçon a vraiment du feu dans les jambes. On l'a vu là dans ce début de saison en Liga, c'est un joueur formidable. Juste qui est-ce qu'il va passer ce gap de pouvoir mener un Barça comme a pu le faire Léo Messi à l'époque, je sais pas. On a un Rafinha aussi qui est quand même extrêmement fort, ils ont recruté des mecs comme Adeyemi. Moi, je pense que
Gordon,
le Barça, j'ai comment
Gordon
en effet, Gordon qui a une adaptation express. Moi, je pense que j'ai pas envie de les jouer. Et je parle en termes de double confrontation, etc. Voilà, si on peut les éviter, tant mieux.
Après, on sait qu'avec ces équipes espagnoles, souvent c'est défensivement que ça bloque, parce que regarde le Barça, t'as Koubarsi, à côté c'est qui? Gérard Martin. C'est compliqué.
Non, c'est vrai que c'est questionnable. C'est questionnable.
Bon, il y a Koundé qui n'est pas dans la forme de sa vie, Baldé qu'ils ont voulu faire partir, Cancelo. C'est compliqué défensivement, pareil pour le Real Madrid, on peut dire pareil, hein. Eusen et Konaté, c'est pas forcément le plus incroyable ces derniers temps.
Bien sûr.
Voilà, ces équipes espagnoles, c'est surtout défensivement, je pense que elles ont des lacunes.
Et puis surtout que le Real Madrid, c'est beaucoup d'individualité.
Aussi.
Beaucoup d'individualité, on voit que le club marche bien quand Mbappé est en forme, quand Bellingham est en forme, quand les stars sont en forme en fait. Donc à voir ce que ça peut donner, mais c'est pour ça que c'est pas nos favoris quoi.
Passons sur les équipes françaises. On a Lens qui a eu un gros tirage, mine de rien. Sporting, Prague, Köln, Bruges, Leipzig, Bodø/Glimt, Manchester City et Liverpool. On en pense quoi de Lens? Est-ce qu'il y a un coup à jouer? On sait que Bollard, c'est souvent le feu quand c'est... Enfin, c'est pas assez souvent, c'est toujours le feu quand c'est en Ligue des Champions. Voilà. Qu'est-ce qu'on en pense de Lens, les gars?
Bah, moi, j'en pense que je suis dubitatif sur Lens, parce qu'on n'a pas eu l'occasion d'en parler sur la rubrique Ligue 1 tout à l'heure, mais moi je suis vraiment dubitatif, parce que déjà ils se sont fait éteindre le feu, parce que tu parlais de feu il y a deux secondes, par Lorient à domicile, je sais pas si vous avez suivi en Ligue 1 quand même 1-0. Ils ont perdu des cadres. Je crois que Sangaré, c'est ça.
Sangaré
est parti.
Udon, qui, c'est, on n'a pas encore les résultats, mais pas
fou. Ah ouais, voilà, blessure. J'étais même pas au courant. Il y a eu quand même un coach qui part pour Crystal Palace. Ils ont plus la même ossature qu'il y avait la saison précédente. Ils ont quand même perdu des cadres. Bon, il y a des Tovin, etc., qui vont enchaîner avec leur deuxième saison. Mais il y a Saint-Maximin qui avait fait beaucoup de bien aussi sur les six mois où il est passé. Ils ont un tirage qui est quand même pas simple. On va pas se mentir.
Très homogène, hein.
Homogène, mais on reste Lens.
Oui, non, mais très homogène. Pas, dans le sens où c'est pas, il y a pas des grands et des tout petits.
Ouais.
Tu trouves vraiment
il y a quand même des gros.
On a Liverpool, Manchester City.
Oui, bien sûr. Non, mais bien entendu.
Non, mais dans le chapeau 1, voilà, tu te dis bien que.
Mais après, c'est costaud derrière. Oui, c'est-à-dire, voilà, c'est pas des clubs.
Non, mais
un peu surprise, oui, juste comme ça. C'est-à-dire que c'est vraiment.
À part Prague, tout reste. Enfin, on dirait que c'est à peu près équivalent au niveau de.
Voilà. Voire un petit peu au-dessus. Oui.
Ouais, mais après, moi, je pense que se déplacer à Bollard, c'est pas aussi facile. Aussi, quand t'es l'équipe d'en face, je pense que t'as aussi cette appréhension de Bollard, c'est compliqué d'aller gagner là-bas, etc. Donc, faut aussi le prendre...
Vous allez taper Arsenal.
Arsenal,
ouais. Ouais, c'est ça.
Alors, on rappelle pour ceux qui nous écoutent, ceux qui se déplaceront à Lens, c'est Sporting, Côme, Bodø/Glimt et Manchester City. C'est quand même des gros. On n'a pas Prague, on n'a pas tout ça. Ça va être compliqué.
Moi, je pense qu'ils vont quand même être barragistes.
Okay.
Très honnêtement, mais je les vois poussifs entre guillemets. Genre, je les vois pas finir top 15, quoi. Je les vois plus entre la 16e et la 24e place.
Okay.
Très honnêtement, au vu du tirage et puis au vu de la forme du club, etc. Après, on est au début de l'année, mais l'année dernière, très grosse saison. On va pas se mentir, ils viennent concurrencer le PSG, etc. En Ligue 1, je pense qu'ils sont pas capables de te ressortir deux saisons comme ils l'ont fait coup sur coup.
Ou alors, on peut assister à Ils peuvent s'inspirer de Brest. Hein. Brest était extrêmement surprenant.
Non, c'est vrai. Mais après, je leur souhaite tout le meilleur. Bien sûr. Lens, c'est un club français, évidemment.
Si on arrive à avoir trois clubs et encore un tirage de Paris en barrage contre un français.
J'espère que cette année, Paris arrivera à passer dans le top
8. Ça sera bien aussi. Mais ouais, non, moi je pense qu'ils sont, ils ont une comment dire, une dynamique. Et je pense, je pense qu'ils sont capables de réaliser des coups. Peut-être contre Manchester City en l'occurrence.
Ambitieux.
C'était Manchester City, c'est à domicile, hein.
Oui.
C'est ça, ils reçoivent Manchester City.
Oui. Manchester City, Bodø/Glimt, Côme et Sporting.
T'as la date de City ? Pas du tout.
City, c'est le.
À peu près, hein, au pire. Non, mais parce que ça dépend quand même aussi de quand est-ce que tu les joues.
20 janvier, dernier match.
20 janvier ?
Dernier match de Ligue des Champions.
Ouais, parce qu'on a quand même un City qui. Après, l'Angleterre, c'est quand même le moment où t'as quand même. Il y a le Boxing Day qui vient de passer, etc.
C'est l'avant-dernier match de Ligue des Champions, parce que le dernier, c'est le 27 janvier contre Liverpool. Donc ils enchaînent en.
Ah oui, ils enchaînent les deux mots en plus.
Manchester City et Liverpool. C'est du solide, hein.
Ah, donc c'est-à-dire qu'en plus, mentalement, il va falloir faire les points avant.
Ouais,
les deux grosses
totalement,
rencontres.
Totalement, c'est ça.
Ouais, c'est à double tranchant. Mmh. Ça peut être OK, c'est bon, j'ai la sécurité, j'ai déjà les points, je suis déjà qualifié.
Bah de mémoire, c'est ce qui a un peu s'est arrivé à Brest, hein. Brest avait fait ses premiers matchs de
points. Ouais. Il finissait même limite top 8 au début, je crois qu'il commençait super bien.
Et après,
ils reçoivent le Real, etc.
C'est ça, ça a été plus compliqué.
C'est ça. Donc je sais pas, allez, faisons une petite surprise à la brestoise.
Bah c'est ce que je leur souhaite en tout cas.
Passons au deuxième, voilà, l'ennemi de Lens au final, le LOSC.
C'est vrai que le Nord est bien représenté.
La Ligue des Champions est nordiste en France cette saison.
Au-dessus de la Loire en tout cas, ouais, c'est clair.
Betis, Arsenal, Galatasaray, Bodø/Glimt, Bayern Munich, Stuttgart, Bratislava et Rome. C'est un peu plus simple, j'ai l'impression, que Lens. Qu'est-ce qu'on en pense de ce tirage pour les Lillois?
Moi, je pense qu'il est abordable parce que on peut aller chercher des points sur au moins trois rencontres. Je pense à Bodø/Glimt, okay. Stuttgart et Bratislava. Je pense que c'est des points, même si tu vas jouer là-bas pour Bodø/Glimt, etc.
C'est compliqué, Bodø/Glimt là-bas.
C'est compliqué, mais on reste modéré. Enfin, moi, en tout cas, je reste modéré parce que ça a été un exploit. Bodø/Glimt, on savait pas qui c'était juste avant cette saison, on va pas se mentir. Je pense pas qu'ils vont être capables de refaire l'exploit, même si c'est relou de jouer là-bas, etc. Je pense que Lille va pouvoir s'imposer. Bratislava à domicile, ça devrait être quand même singulier comme victoire. Et Stuttgart là-bas, je pense que t'as les armes cette année pour le faire. Après, tout dépend de la dynamique, de quand est-ce que tu les joues, etc. J'ai pas les dates sous les yeux, mais je pense que t'es capable de sortir 9 points là-dessus. Et sur les 5 autres rencontres, tu peux quand même aller chercher un ou deux matchs nuls, aller embêter, alors peut-être pas le Bayern ou Arsenal, hein, je les vois quand même pas faire une performance telle quelle, mais aller chercher, je sais pas, face au Real Betis Balompié, peut-être un match nul. Galatasaray chez toi que tu reçois, c'est pas chez eux, tu peux peut-être aller chercher un match nul aussi, voir une victoire. Moi, je pense qu'ils sont capables de s'en sortir, voilà, avec une dizaine de points. On l'a vu les années précédentes, t'es barragiste avec 10 points. Donc, ouais, moi, je vois Lille plus. Si j'étais Lille, en tout cas, je serais plus confiant que Lens, honnêtement.
Bah, il y a plus Genesio. Genesio, on savait aussi que c'était celui qui.
C'est valeur sûre entre guillemets.
Valeur ouais. sûre et qui tapait à chaque fois.
Un gros.
Donc ça aurait peut-être été le Bayern à domicile. Maintenant, peut-être que le fiston va demander quelques conseils à papa et que
c'est possible.
Ça peut être aussi des arguments. Ouais, je pense que Lille a toutes ses chances également. Barragiste, c'est dans leur corde. Et honnêtement. On a quand même, que ce soit pour Lille et que ce soit pour Lens, on a deux clubs français qui sont de bonne facture quand même, qui proposent du jeu, qui proposent quelque chose de cohérent. C'est des clubs qu'on voit aussi régulièrement. Enfin, je veux dire, là aujourd'hui, Lens, on le voit en Champions League, Lille, on le voit aussi assez régulièrement. Mm. Donc, ils commencent à avoir aussi une expérience parce que ça joue énormément. Donc,
Il ne faut pas nous taper la honte comme deux Olympiques. Ça c'est sûr. On peut taper la ronde. Je pense pas en tout cas. J'espère pas.
Mais moi je tiens juste à dire quand même attention quand même pour les deux d'ailleurs. Enfin, pour les deux. Quand t'as trois compétitions à jouer, faut pas se perdre parce que quand même quand tu joues la Ligue 1, la LDC, la Coupe de France, attention, va falloir faire tourner, va falloir gérer ses matchs, va falloir choisir ses matchs en tant que coach. Est-ce que je fais le choix de voilà, je sais pas, titulariser un Thauvin, etc. dans des matchs de Ligue 1. Quelle compétition tu choisis, quelle compétition tu privilégies?
Je pense que Lens, entre guillemets, pour eux, c'est peut-être un peu plus simple à choisir. Hein. Ils ont décroché la Coupe de France l'année dernière, donc.
Oui, et puis ils ont déjà pris le trophée des champions cette année. Tu peux faire la croix quand même.
Je vais te dire voilà. Arriver en Ligue des Champions, je pense.
On va peut-être engranger un petit peu d'argent parce qu'on sait aussi à quel point le fait que ça soit la Ligue 1 et qu'il y ait plus de droits et que les droits soient si pauvres que ça. La Ligue des Champions est assez rémunératrice.
Oui, elle rapporte bien.
Ouais. Non, mais je dis juste attention à ça parce qu'en effet, tu peux vite te perdre.
Oui, c'est pas des équipes avec non plus une profondeur de banc exceptionnelle. Mmh.
Messieurs, j'ai envie de vous parler de quelques matchs de cette première journée justement qui nous attendent à partir de demain. Donc les matchs qui se dérouleront demain, mercredi et jeudi aussi. Jeudi, pas de Ligue Europa, ça sera Ligue des Champions également.
Typique.
Mardi, est-ce que on peut parler un peu d'un Real Madrid-Inter Milan, par exemple. Qu'est-ce que vous voyez pour ce match? Est-ce que voilà, on est sur un Real qui va réussir à faire tomber l'ogre interiste, qui voilà n'est plus trop un ogre depuis le départ.
Petit ogre.
Qu'est-ce qu'on en pense de ce match?
Alors moi, j'ai regardé déjà Inter-Naples. Okay. Naples qui gagnait dans ce match d'ailleurs à Giuseppe Meazza. Donc on avait quand même un Inter qui était un peu poussif, notamment dans les occasions offensives. Mené par d'ailleurs un magnifique coup franc de Di Marco qui finit sur la barre. Ils finissent par gagner au bout du fil, etc. Match quand même intéressant, mais je vois plus un Inter redoutable comme t'as pu en parler il y a encore deux ans quand ils vont en finale, etc. Bon, ils étaient pas non plus on s'entend quand je dis redoutable, mais non, je vois pas un Inter exceptionnel, du moins je l'ai vu loin de ses belles années en tout cas. Et je vois contrairement à ça un Real qui est quand même assez dominateur. Okay. en Liga, avec porté par des individualités, j'ai pu en parler tout à l'heure, Kylian Mbappé qui a mis un triplé récemment, Jude Bellingham qui est dans la continuité de sa Coupe du Monde et qui est partout, littéralement le mec est partout. Il va te faire les efforts défensifs, il va faire les courses qu'il faut, il va se projeter, il est intéressant globalement. Les limites elles peuvent être en effet défensives. La défense qui est encore en rodage actuellement. À voir, t'as quand même Thibaut Courtois dans les cages. Moi, je vois clairement le Real gagner, je pense. Surtout que c'est chez eux.
C'est au
Bernabéu. Je fais confiance à Mourinho.
En même temps, regarde, le Real, ils viennent de perdre contre le Betis.
Oui.
1-0, je crois.
Oui, je crois que c'est ça.
C'est ça. Moi, je sais pas.
Ouais, mais c'est à la toute fin du match, je crois. C'est un truc, ils se font rattraper à la toute fin, et puis.
Ouais, mais je vois l'Inter peut-être un peu plus structuré, un peu plus homogène dans le sens où c'est aussi des continuités. Il y a pas.
Football italien aussi.
Voilà, il y a pas non plus une révolution comme il y a eu au Real. Hein. Enfin, je veux dire, le Real, ils ont acheté, je sais pas, 4, 5, 6 joueurs là.
Beaucoup d'arrivées
cette saison. Du coup, tu dois marquer le coup. tu te dois de t'es le Real, t'es une institution, tu sors d'une saison blanche,
ouais.
T'arrives, t'es Mourinho, t'es nouveau coach, t'as des nouveaux joueurs, bah tu te dois de t'imposer,
ouais.
Tu te dois de marquer le coup, de dire voilà, là on est à la maison, on est le Real et on est venu reconquérir le monde entre guillemets.
Ouais, mais moi j'ai l'impression de revoir ce Real comme ce qu'on décrivait du Paris de Paris G il y a quelques années, c'est-à-dire qu'on achète des joueurs, et on s'en bat.
Bling bling.
Ouais, ou même pas que bling bling, mais on sent pas la cohésion, on sent
pas. Pas d'osmose.
Voilà, on sent pas pour quelle raison tu vas acheter tel ou tel joueur, mais t'achètes de, parce que bah tout simplement aussi t'as un joueur qui s'appelle Kylian Mbappé qui malheureusement
monopolise
l'attention, c'est-à-dire c'est l'aimant, il faut jouer pour lui et moi je sais pas, il y a toujours des surprises en plus dans les premières journées, c'est là où il y a peut-être des choses à exploiter, donc oui, pourquoi pas au moins un match nul de l'Inter.
Ok,
toi Naï, tu vois quoi?
Moi j'ai envie de partir sur un match nul,
parce que je suis seul contre deux.
J'ai envie de partir sur un match nul parce que je vois les équipes en fait un peu dans une sorte de même difficulté, on va dire, dans une sorte de même contexte, sans être dans le même contexte. C'est-à-dire que d'un côté on a les stars du Real, l'Inter qui doit un peu assurer, mais l'Inter finalement c'est champion encore d'Italie la saison dernière. C'est une équipe
une Serie A qui est malade, hein. Excusez-moi.
Qui est malade.
La Serie A qui reste de moins en moins compétitive au fur et à mesure.
C'est une équipe qui est quand même dure à jouer.
J'entends. Bien sûr, c'est pas facile.
C'est le football italien. Ils ont pas, comme a dit Romu, y a pas eu de révolution non plus. C'est-à-dire que ils sont sûrs de leur football. Ils savent ce qu'ils ont à faire. Et en face, on a un Real qui, franchement, tactiquement, José Mourinho, c'est compliqué tactiquement.
C'est
quand
archaïque.
On voit que, c'est archaïque. Hein. Quand on voit qu'au milieu de terrain, t'as juste à mettre trois joueurs sur leur deux milieux pour les bloquer et qui sont bloqués et qui perdent contre le Betis, c'est compliqué quand même. Donc, je me dis que voilà, j'ai des limites en fait sur le Real Madrid qui me font dire que ils vont réussir parce qu'ils sont à la maison, parce que c'est le Bernabéu, parce que c'est le Real, réussir à faire quelque chose. Mais je vois l'Inter bien se débattre entre guillemets et voilà, accrocher un bon nul.
Et le Real doit gagner. Alors que l'Inter doit pas perdre.
Ouais. Il y a aussi ça. Le Real est plus attendu que l'Inter, évidemment.
Ouais, mais du coup, le Real, est-ce qu'on les a beaucoup vus trembler dans des situations comme ça? Dans l'histoire, je parle pas dans l'histoire récente.
Dans l'histoire,
c'est quand même.
Dans l'histoire récente, le retour au Bayern. Hein. Le retour au Bayern.
Ouais, mais moi, je fais confiance au Special One.
Ok.
Il va arriver, il va marquer le coup.
Messieurs, si on prend un deuxième et dernier match avant de passer au prono, Liverpool Atlético de Madrid mercredi. Qu'est-ce qu'on en pense de ce match? Alors d'un côté, on a Liverpool avec un nouveau coach Andoni Iraola, avec Barcola en figure de proue de ce projet d'attaque où ils ont empilé les ailiers gauches, on dirait, où ils ont pas tellement remplacé Mohamed Salah.
Ils en sont à combien de milliards là, Liverpool?
Milliards, c'est vrai que c'est faut parler en milliards.
C'est démentiel.
C'est vrai qu'avec le mercato de la saison précédente,
c'était quoi, 800 millions l'année dernière, je crois que
c'était. Non, 500, c'était record.
Les Virts, etc.
Bah Isaac, Virts, etc. qui ont pas forcément prouvé beaucoup.
Même si Isaac, attention cette saison, je pense que.
Oui, non, moi je pense qu'il va y avoir une adaptation clairement.
Et de l'autre côté, on a Atlético de Madrid qui avec l'affaire Alvarez.
C'est vrai que les affaires actuelles.
Voilà, là c'est un match qui est agité, on va dire. Qu'est-ce qu'on en pense? C'est à Liverpool, donc Liverpool.
Ah, c'est ça que j'allais dire.
Ils ont plus l'avantage. Mais voilà, qu'est-ce qu'on en dit de ce match?
Bah, ce qu'il y a, c'est que c'est un match qui il y a encore quelques années est une grosse affiche.
Oui.
Et c'est vrai que bon, l'Atlético de Madrid. Ouais, c'est un peu passéiste aussi. Hein. C'est-à-dire que le pauvre, comment il s'appelle, Simone, il est aussi sur une sorte de redondance. Il a plus les mêmes joueurs. Hein. Il a plus les mêmes joueurs. Il a plus les
Griezmann.
Déjà.
Il a plus les Griezmann.
C'est vrai
déjà.
Qu'il y a plus de Griezmann. Il y a un Alvarez qui a plus envie d'être là. Enfin, c'est quand même dur hein, d'imaginer.
Ouais, dans quelles conditions il va aligner l'attaque, quoi. Est-ce qu'il va le mettre? Est-ce qu'il va jouer? Mais s'il joue, est-ce qu'il est là vraiment dans le match? C'est questionnable.
Derrière, hein. Et puis derrière, les tauliers, c'est pas ce qu'il avait auparavant. Hein.
Ouais, donc, mais ils savent garer le bus.
Ouais.
C'est s'il y a bien un entraîneur qui sait garer le bus, c'est Diego Simeone. Et je pense que tu vas attaquer le match en te disant, on va chercher le match nul. Quand un peu comme l'Inter, quoi. On doit pas perdre. On est à Anfield. Anfield, c'est quelque chose quand même. Je pense que t'as ce truc-là de te dire, on va pas forcément chercher un gros résultat. Tout dépend de la physionomie du match. Est-ce que Liverpool marque rapidement? Est-ce que l'Atlético arrive à marquer rapidement. Vous savez, ça, si l'Atlético le mêle 1-0 en 10 minutes, je pense qu'ils savent garer le bus et le tenir, tu vois, le score. Donc, non, moi, je vois un match nul. Honnêtement, si je dois me prononcer vraiment, je vois un match nul parce que actuellement Anfield, c'est dur d'aller chercher une victoire. Et les Liverpool, je les vois pas forcément capables d'une grosse performance contre l'Atlético.
Moi, là, Liverpool, je les vois gagner. Là, je les vois gagner contre.
Mais ce serait pas choquant, score, ouais. Évidemment. Ouais, chez toi, t'es au premier match.
Logique, ça, c'est sûr. Oui.
Bien sûr.
Ouais. Très bien, messieurs. Merci beaucoup. On va passer à une dernière pause musicale. Nous allons écouter allez, un peu de Michael Jackson, messieurs.
Allez, c'est parti.
I Can't Stop Loving You de Michael Jackson sur IDFM Radio.
Each time the wind blows, I hear your voice, so I call your name. Whispers and morning, our love is dawning. Heaven's glad you came. You know how I feel, this thing can't go wrong. I'm so proud to say I love you. Your love's got me high, I long to get by. This time is forever, love is the answer. I hear your voice now, you are my choice now. The love you bring, heaven's in my heart. At your call I hear harps and angels sing. You know how I feel, this thing can't go wrong. I can't live my life without you. I just can't hold on, I feel we belong. My life ain't worth living.
Seulement sur IDFM Radio.
Vous êtes toujours sur les antennes d'IDFM Radio dans notre émission Le Grand Dopper Show, qui a retrouvé en podcast sur IDFM88.fr, sur Spotify et en format vidéo sur YouTube. Nous sommes toujours en compagnie de Romuald et de Baptiste, et c'est le moment de vérité. On range les statistiques, on laisse parler notre instinct et parfois même notre mauvaise foi. Voici les pronostics de l'équipe du Grand Dopper Show pour les grands rendez-vous de la semaine.
Les pronos de l'équipe du Grand Dopper Show sur IDFM Radio.
Messieurs, pour lancer ces pronos, j'ai envie de m'intéresser à la rencontre qui va opposer le PSG face à Bratislava. Est-ce que je peux avoir vos pronos du match? Donc score, buteur, passeur, physionomie du match, voilà ce que vous voulez sur le match PSG-Bratislava qui arrive mercredi.
Ah, c'est compliqué pareil, parce que il y a le cœur qui parle tout le temps. Alors Paris, Bratislava, Paris sont obligés de gagner. Là, enfin, dire, c'est la Champions League, la début de championnat doit être oublié. Ouais, je vois un 3-0. 3-0, but de un petit but de Gvara. Il est obligé de poser le statut parce que peut-être que il y a un ballon d'or aussi hein, à aller chercher qu'aujourd'hui il n'y a jamais eu autant d'incertitudes sur qui peut remporter ce ballon d'or. Derrière, je pense que bon le compo d'équipe là il est obligé de jouer la compo d'équipe qu'on a vu en finale de la Champions League hein, donc enfin Nuno Mendes aussi derrière. Petite subtilité, moi je verrais bien Chevalier dans les buts. Je sais pas pourquoi.
D'accord.
Ce qu'il avait fait entre guillemets, ce qu'avait fait
Safonov
de prendre la place de Chevalier. Pourquoi pas là, ouais, Chevalier dans les buts. Et puis bon, bah oui, la grosse équipe avec un milieu de terrain. Alors quid de milieu. Est-ce que on a
Fabian
et pas Warren? Ça va être vraiment l'interrogation. Donc là-dessus, il y a quelque chose à matière. Et à jouer avec le feu avec ce joueur, j'espère qu'un jour ils vont pas se cramer, parce que le gars peut avoir toute la meilleure état d'esprit, mais il y a un moment, faut aussi récolter un petit peu ce qu'on a semé. Et ouais, devant un Dembélé doué. Avec Gvara, et donc en buteur je disais Gvara, peut-être un Fernand Torres en super okay. Sub, je verrais bien un petit Fernand Torres, et pourquoi pas enfin peut-être est-ce qu'il pourrait aussi déclencher un petit peu comme il y avait eu pour Doué un petit but d'Akliouche.
Ok,
ouais, voilà, donc
ah oui, Akliouche,
ouais,
ok,
ouais. En remplaçant deuxième mi-temps, ouais.
Baptiste.
Ok, bah pour moi je vais pas trop dénaturer hein. Je pense que au niveau de la compo on va être sur quelque chose de typique hein. On va être sur le 11 qu'il y a eu en finale, etc. Ça a pas beaucoup bougé. Je pense que t'es Luis Enrique, t'as pas beaucoup envie de prendre de risques, hormis peut-être sur Dembélé, comme on sait qu'en Ligue 1 on a ce truc là de il se repose, etc. un petit peu. Je pense que Dembélé va peut-être pas commencer titulaire. Et tu vas avoir, je sais pas, un Akliouche, un Mika Götze, je sais pas comment. On sait qu'ils peuvent jouer à tous les postes de l'attaque, etc. Les joueurs du PSG. Donc je pense que il va nous surprendre peut-être avec un Ferran en neuf, Doué à droite et Gvara à gauche. Moi au niveau du score exact, je vois un 4-1. Je vois un 4-1 pareil, 3 buts d'écart, mais je vois un peu plus de buts. Et je vois surtout un but pris. Parce que je pense que le PSG est pas encore, on l'a vu dans les matchs de Ligue 1, il est pas encore rodé parfaitement, notamment défensivement. On a vu sur les contres, ils sont quand même assez faibles. Et puis la question du gardien, c'est vrai que on sait pas trop avec Safonov qui fait pas mal de bourdes. Si je dois mouiller sur les buteur, je dirais doublé de Gvara et pas seulement un seul but, parce que là tu dois marquer le coup, là tu dois montrer que t'es encore là. Et comme tu l'as très bien dit Romuald, c'est vrai qu'il y a la question du ballon d'or. Et en passeur, moi je vois Fabian Titu et je vois Fabian passeur. Fabian, parce qu'on l'a vu en Ligue 1, il a été capable du meilleur, donc je dirais ça pour mes petits pronos.
Ok, bah très bien. Écoute, moi si je devais donner mes pronos, alors déjà moi ce qui me plaît c'est que cette équipe de Bratislava c'est l'équipe de Yaya Touré. C'est Yaya Touré qui l'entraîne.
C'est Yaya Touré
qui les a qualifiés via les barrages. Mm-hmm. Et franchement, moi, ça me plaît déjà de voir cette équipe. Alors, je suis content de voir Yaya Touré sur un banc.
C'est un visage qu'on va aimer revoir.
C'est ça. On va bien le revoir et franchement, c'est cool. Bon, je pense qu'il va quand même prendre une tollée.
Hein. On va pas se mentir. Ouais.
Je pense qu'il va prendre une tollée. Ça a beau être Yaya Touré. Je pense qu'il va prendre un 3-0 sec, net et sans bavure, comme on dit.
3-0 aussi, ok.
3-0.
Tous trois buts d'écart.
Ouais. Et puis, je suis d'accord. Je vois bien un but de Magnus Akliouche qui, on l'a vu face à Monaco, il a mis la barre. Bon, même s'il était en jeu, c'était il avait mis la barre. Et peut-être un but, allez, je dirais de Pacho, un à chaque ligne, un Akliouche, Pacho, et peut-être un au milieu de terrain, un Vitinha sur penalty.
Voilà, pourquoi pas.
Ça s'entend.
Donc voilà, c'est ça mes petits.
Pacho, c'est rare. Hein. Tu te mouilles. Hein.
Pacho, c'est très rare. Il a marqué un but contre Leverkusen.
Ouais.
Ouais.
Et c'est tout après.
Alors si, que Marquinhos, on a un Marquinhos en feu. Hein. T'avais un tapis qui était plus.
C'est
écrit en gros.
Il est sur deux buts.
Deux buts en.
Non, il y a Ferran. Ferran, il a mis un doublé.
Ah, mais il est égalité.
Ah, bah il est égal.
Ouais, doublé.
Mais bon, je pense que Pacho, c'est peut-être. S'il change de marque de chewing-gum, je pense que ça marque.
S'il prend des Airways, je pense que.
Ou alors c'est le goût.
Ouais.
S'il prend fraise ou.
Ça dépend.
Là, il y a quelque chose à faire. C'est chewing-gum.
Faut qu'il lâche les Hollywood.
Je pense que ça change. Messieurs, je vous propose aussi de terminer cette émission sur un petit jeu. Voilà, faisons un petit jeu. Un club, un joueur, un club, un joueur, ainsi de suite.
Allez.
Je me propose de commencer. Ousmane Dembélé.
Bayern. Barcelone.
Ok. Barcelone. Aubameyang.
Aubameyang. Ok. Je vais dire. Chelsea.
Chelsea, Lucas Digne.
Jamais joué, non.
Jamais.
Malheureusement.
Non, jamais.
Tu es éliminé, malheureusement.
Oh non.
Tu es éliminé. Non, mais Lucas Digne, quand même, non.
Everton, il a fait.
Ah, c'est Everton.
C'est Aston Villa, plus récemment.
Oui.
Sinon, à Chelsea, il y avait plus.
Ouais.
Hein.
Oh.
Baptiste, entre nous deux.
Joueur club, du coup, à chaque fois.
Allez.
Je commence.
Ah, du coup, t'en dis deux.
J'en dis deux.
Bah, tu dis un joueur, okay, okay. Un joueur avec son club. Et...
Dortmund, Bellingham.
Très bien. Je vais dire Real Madrid, Konaté.
Je vais dire Liverpool, Bradley Barcola. Ouais, dans l'actualité.
Ok, je vais dire Bradley Barcola. Du coup, ça fait Lyon. Je vais dire Lyon. Georges Mikotadze.
FC Metz. Gauthier Heine. Je fais le puriste et je rate en plus.
Auxerre, Lamine Sy.
Et je vais dire que c'est une fin d'émission. je suis.
T'as envie de dire Chelsea, c'est bon.
Ouais, je suis mort.
C'est ça.
Bien joué, Naïe.
C'est ça, merci. Messieurs, l'émission, elle touche à sa fin. Ça y est, on y arrive. Qu'est-ce que vous avez pensé? Un petit mot de fin, messieurs.
Franchement, très très sympa. Très content d'avoir pu être là pour la première en plus et t'accompagner. Merci à vous deux. C'était très plaisant.
Très sympa.
Voilà. Merci à vous les gars d'être venus ce soir. Merci à notre invité aussi Mélo en début d'émission qui était depuis Anderlecht. Merci également à vous, auditeurs, auditrices d'IDFM Radio, pour votre fidélité. Notre émission, elle est à retrouver en podcast sur idfm98.fr, sur Spotify, sur le compte de nae.groundhopper ou sur notre chaîne YouTube, le Groundhopper Show. Pour plus d'actualités foot, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, nae.groundhopper. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission consacrée à notre passion commune, le football sous toutes ses formes. D'ici là, profitez du ballon rond, prenez soin de vous. C'était Naé, à très bientôt sur les antennes de IDFM Radio. Salut !